Chapitre 33. Ambassadeur. Durant ces trois derniers mois, Bowman s'était si complètement adapté à son existence solitaire qu'il avait parfois du mal à se souvenir d'une autre vie. Il était au-delà de l'espoir, au-delà du désespoir. Il s'était installé dans une routine presque automatique, ponctuée de temps à autre par une alerte lorsque l'un des systèmes montrait des signes de défaillance. Mais il n'avait pas perdu la curiosité et, parfois, l'idée du but vers lequel il se dirigeait l'emplissait d'exaltation et d'émerveillement. Non seulement il était l'unique représentant de la race humaine, mais ses actes, dans les semaines à venir, détermineraient l'avenir des hommes. Jamais une telle situation n'avait existé dans toute l'histoire. Il était un ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire de toute l'humanité. Cette idée l'aidait de bien des façons, subtilement. Il restait, par exemple, propre et soigné. Quel que fût son état de lassitude, il n'omettait jamais de se raser. Le contrôle, il le savait, l'observait avec attention pour déceler les premiers signes éventuels d'un comportement anormal, et il était bien décidé à ce que ce fût en vain, tout au moins pour ce qui était des symptômes sérieux. Car il avait parfaitement conscience de certaines modifications de son comportement. Il eût été absurde d'espérer le contraire dans les circonstances présentes. Ainsi, il ne pouvait plus supporter le silence. En dehors de ses périodes de sommeil ou de ses dialogues avec la Terre, il maintenait le dispositif de sonorisation du vaisseau à un niveau presque intolérable. Tout d'abord, le besoin d'entendre des voix humaines l'avait confiné aux pièces classiques et plus spécialement à Shaw, Ibsen et Shakespeare ou aux poèmes qu'abritait l'énorme phonothèque du vaisseau. Cependant, les problèmes évoqués semblaient si lointains, si faciles à résoudre avec un peu de bon sens, qu'il n'eut plus la patience de les écouter après quelque temps. Il passa donc à l'opéra, choisissant en général des œuvres en italien ou en allemand afin de n'être pas distrait par le contenu intellectuel minime des œuvres. Cette période dura 2 semaines avant qu'il comprît à quel point toutes ces voix magnifiquement cultivées exacerbaient sa solitude. Il acheva finalement le cycle par le Requiem de Verdi qu'il n'avait jamais entendu sur Terre. Le Dies Irae, dont les échos grondants se répercutaient dans les couloirs vides avec un à-propos sinistre, le laissa effondrer. Et lorsque résonnèrent les trompettes du jugement dernier, il ne put le supporter. Il passa donc à la musique instrumentale, en commençant par les romantiques qu'il abandonna l'un après l'autre, étouffant sous les expressions diverses de leurs émotions. Sibelius, Tchaïkovski et Berlioz durèrent quelques semaines. Beethoven, plus longtemps. Finalement, ainsi que beaucoup en avaient déjà fait l'expérience, il trouva la paix dans les architectures abstraites de Bach, agrémentées parfois de celles de Mozart. Et Explorateur 1 poursuivit sa route vers Saturne, accompagné par la fraîche musique d'une harpe, égrenant les pensées cristallisées d'un cerveau redevenu poussière depuis 200 ans. Saturne était encore à 10 millions de milles, mais elle apparaissait déjà plus grande que la Lune vue de la Terre. C'était pour l'œil un glorieux spectacle qui, au télescope, devenait incroyable. On aurait pu croire contempler Jupiter en période calme. Même bande de nuages, bien que plus pâles et plus distincts sur ce monde légèrement plus petit, même remous atmosphériques, vastes comme des continents et se déplaçant avec lenteur. Il existait cependant une différence majeure entre les deux planètes. Au premier coup d'œil, il apparaissait comme évident que Saturne n'était pas sphérique, mais tellement aplatie au pôle que son image en semblait déformée. Pourtant, c'était bien souvent la magnificence des anneaux qui attirait le regard de Bowman. Ils étaient un univers en eux-mêmes, avec leurs détails complexes, leurs colorations délicates. En plus de la principale division qui séparait les anneaux intérieurs et extérieurs, il en existait 50 autres délimitant des zones plus ou moins lumineuses. Saturne semblait entouré de multiples anneaux de papier fin. C'était comme une œuvre d'art délicate, un jouet fragile et précieux, que l'on pouvait admirer sans pouvoir le toucher. En dépit de ses efforts, Baumann ne parvenait pas à se représenter l'échelle véritable de cette vision et à se convaincre que la Terre y eût été comme un petit ballon au bord d'une assiette. Parfois, une étoile glissait derrière les anneaux, perdant un peu de son éclat, sans cesser d'être visible, par-delà la matière translucide, scintillant par intermittence lorsqu'elle était occultée par le passage de fragments plus importants. Car les anneaux, ainsi qu'il avait été prouvé au XIXe siècle, n'étaient pas pleins, ce qui eût été une impossibilité mécanique. Ils étaient formés de myriades de débris qui représentaient peut-être les restes d'une lune qui s'était trop approchée et qui avait été brisée par le formidable champ d'attraction de la planète. Quelle que fût l'origine des anneaux, la race humaine pouvait considérer comme une chance rare d'avoir contemplé pareil spectacle, car leur existence ne pouvait représenter qu'un infime moment de l'histoire du système solaire. En 1945, un astronome britannique avait déclaré que les anneaux étaient éphémères et que les forces gravitiques qui s'exerçaient sur eux les détruiraient bientôt. En renversant cette proposition, il était logique de conclure qu'ils n'avaient été formés que récemment, 2 ou 3 millions d'années auparavant. Mais nul n'avait jamais relevé que, par une curieuse coïncidence, les anneaux de Saturne étaient nés en même temps que la race humaine.